l'écoute de RFI 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Eh bien, l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, l'Assemblée nationale française qui vote en première lecture le droit à l'aide à mourir.
305 députés pour 199 contre. C'est une étape décisive pour cette réforme dont on parle depuis des années. Le texte sur les soins palliatifs avait été adopté peu avant, cette fois à l'unanimité. On en parle dans un instant avec Raphaël Delvolvé, c'est le dossier de ce 20h.
Autre titre ce soir, les États-Unis et Elon Musk qui quitte le Doge.
Mais la commission pour l'efficacité gouvernementale. Le patron de Tesla n'aura pas permis au gouvernement américain d'économiser les 2000 milliards de dollars prévus. Et surtout, il part après avoir mis la main sur les données venant de différents ministères. L'Argentine de Javier Milei quitte, elle, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Décision confirmée alors que le ministre de la Santé américain est en visite à Buenos Aires. L'alignement du président argentin sur son homologue et voisin américain se confirme.
Et puis on parlera série à la fin de cette édition.
Oui, de la série américaine The Agency, le remake du français Bureau des Légendes.
Et puis après ce grand journal du soir, eh bien on va tenter de répondre à cette question. Un tribunal spécial sur l'Ukraine pourra-t-il voir le jour ? Cette initiative est soutenue par plus de 40 États. Il s'agirait de juger le crime d'agression. Ce serait une première depuis Nuremberg et Tokyo en 1946. On va en parler avec nos collègues du journal suisse Le Temps qui se penche sur ce sujet. Et pour débuter donc, eh bien ce vote historique des députés français ce soir.
Oui, ils ont adopté en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir. Autrement dit, la possibilité, pour des personnes gravement malades, de se donner légalement la mort, voire de se la faire donner dans certains cas. Raphaël Delvolvé, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI, vous êtes à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'émotions dans l'hémicycle tout à l'heure.
Oui, à commencer par celle d'Olivier Falorni. C'est un député centriste connu pour son combat en faveur de l'aide active à mourir. Il porte la proposition de loi.
À ce moment, je pense à tous les malades que j'ai rencontrés depuis plus d'une décennie. Et ils m'ont toujours dit, battez-vous pour les autres, ceux qui viendront.
Son texte a été modifié pendant les débats. La version votée tout à l'heure se rapproche de celle voulue par le président Macron avant la dissolution, c'est-à-dire avec des conditions assez strictes. Permettre un suicide assisté ou une euthanasie pour des Français majeurs ayant leur discernement étant atteints d'une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, le tout sur avis médicalement établi par un collège. 305 députés ont dit oui, 199 non. Le débat fut respectueux, mais clivant et très sensible. Il s'y mêle intimité, conviction religieuse, expérience personnelle ou professionnelle. Il n'y avait d'ailleurs aucune consigne de vote parmi les groupes. L'écologiste Sandrine Rousseau y est favorable. Elle, dont la mère, souffrante d'un cancer, s'est suicidée.
Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu accès à cette aide, pour toutes celles et ceux que l'on a accompagnés pour notre humanité, pour nos droits à disposer de nos corps, oui, à l'aide à mourir.
Parmi les opposants, dont beaucoup sont à droite, le LR Philippe Juvin, médecin de profession, lui dénonce une loi ne protégeant pas des dérives et méprisant les soins palliatifs.
On nous dit c'est une loi de fraternité, mais la fraternité c'est pas ça. En soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir. Après une semaine, ils ne sont plus que 0,3%. La demande de mort disparaît quand on prend soin et qu'on aide à vivre.
Les soins palliatifs, il en était d'ailleurs question tout à l'heure sur un autre texte voté lui à l'unanimité et renforçant les moyens. Plus de 20 départements français sont aujourd'hui dépourvus de soins palliatifs.
Alors précision importante Raphaël, aujourd'hui ça n'est qu'un vote en première lecture.
Le texte part maintenant au Sénat où il va vraisemblablement être modifié par cette chambre dominée par la droite. La ministre de la Santé Catherine Vautrin demande aux sénateurs de prendre en compte le vote du jour.
Je souhaite qu'ils suivent ce chemin avec la même écoute, la même volonté de trouver un consensus qui permette de se dire que oui, l'accompagnement du patient peut avoir diverses formes.
Le texte va ensuite revenir ici à l'Assemblée nationale, possiblement repartir encore une fois au Sénat. Comme souvent pour ces sujets sociétaux, on opte pour la procédure la plus longue possible. Le débat n'est donc pas terminé. Des voix vont continuer de s'exprimer et non des moindres. Le Premier ministre François Bayrou, encore ce matin, a déclaré que s'il avait été député, il n'aurait pas voté le texte, il se serait abstenu. Le président Macron parle lui ce soir d'une étape importante, lui qui n'écarte pas un référendum sur la fin de vie si les débats s'enlisent au Parlement Dans les sondages, près de 89% des Français sont favorables à une aide active à mourir.
Merci Raphaël Delvolvé, en direct de l'Assemblée nationale.
L'actualité ce soir au Proche-Orient, la bande de Gaza et cette dénonciation d'un génocide.
D'abord par le chef du Parti socialiste français, Olivier Faure, qui rejoint les écologistes et les communistes sur le sujet. Et puis par quelques 300 écrivains, dont deux prix Nobel, Annie Ernaux et Jean-Marie Gustave Le Clézio, dans une tribune parue ce mardi dans le quotidien Libération. Tout comme il était urgent de qualifier les crimes commis contre les civils le 7 octobre 2023 de crimes de guerre et contre l'humanité, il faut aujourd'hui nommer le génocide. Les signataires demandent un cessez-le-feu immédiat. Mais les Palestiniens de la bande de Gaza ne sont pas les seuls à subir des violences. Ceux qui habitent en Cisjordanie ont été victimes tout au long de cette journée de mardi de plusieurs actions violentes menées par des colons israéliens et des soldats. Pierre-Olivier.
Ce mardi à Naplouse, l'armée israélienne a ouvert le feu sur plusieurs personnes, tuant l'une d'entre elles et en blessant une trentaine d'autres. À Naplouse toujours, ainsi qu'à Jenin, Toulkarem ou Bethléem, des raids simultanés ont été rapportés, des magasins de change et d'achat d'or ciblés par les soldats. Israël accuse ces commerces de financer des actions terroristes sans pour autant apporter la moindre justification. Au nord de Ramallah, dans le village de Mourayer notamment, des colons israéliens ont mis le feu à plusieurs champs et s'en sont pris à des Palestiniens physiquement. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des flammes ravager les récoltes tandis qu'un épais panache de fumée noire s'élève dans le ciel. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères palestinien accuse Israël de fomenter ses actions violentes pour justifier la nécessité d'une annexion. Il appelle la communauté internationale à mettre un terme aux crimes de génocide, de déplacement forcé de population et d'annexion.
Pierre-Olivier du service international de RFI, il est 14h07 à Washington, vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir. Sur Radio France Internationale avec Christophe Paget. Christophe, les États-Unis à présent et la suite de l'offensive de Donald Trump contre Harvard, le président américain qui, on le rappelle, accuse la prestigieuse université américaine et vient de laisser prospérer l'antisémitisme sur son campus.
Et aussi de propager les idéologies progressistes. Après avoir tenté d'empêcher Harvard de recevoir des étudiants étrangers, la Maison-Blanche entend maintenant mettre fin à tous les contrats qu'elle a passés avec l'université. Selon la presse américaine, il y en aurait pour 100 millions de dollars. Selon un haut responsable américain, une lettre a été envoyée aux agences fédérales leur demandant d'identifier ces contrats et de dire s'ils peuvent être annulés ou redirigés ailleurs.
Dans l'actualité américaine également, Elon Musk qui quitte le Doge, la commission pour l'efficacité gouvernementale.
Au final, il n'y aura passé que 130 jours. Le patron de Tesla, et homme le plus riche du monde, explique qu'il veut se concentrer davantage sur ses entreprises. Ce n'est pas vraiment une surprise, hein, d'autant que Donald Trump parlait de moins en moins d'Elon Musk sur son réseau Truth Social. L'objectif du Doge, c'était de sabrer dans les dépenses. Même si de 2000 milliards de dollars, on évite de passer à un objectif de 1000 milliards, et qu'au final, selon les chiffres du Doge, seuls 160 milliards de dollars auront été économisés. Au-delà de ces économies, Elon Musk aura surtout mis la main sur une multitude de données venant de différents ministères. Pour Sylvie Laurent, enseignante à Sciences Po et autrice du livre « La contre-révolution californienne », cela pourrait avoir des conséquences sur le long terme.
Sa principale réussite lorsqu'il était à la tête de cette entreprise de destruction de l'État américain, c'était de constituer le plus grand fichier de surveillance des Américains de l'histoire des États-Unis, puisqu'il a aujourd'hui en sa possession près de 300 millions d'Américains sous forme de données numériques qui sont rassemblées sur une clé USB dont il a la propriété et dont nul ne sait aujourd'hui ce qu'il fera. Certainement, on peut penser qu'il y aura une forme de marchandisation et de transformation de ces informations en source de profit. On se rappelle qu'en 2016, Facebook avait vendu des fichiers de millions d'utilisateurs à la campagne de Donald Trump pour que une agence dite Oxford Analytica puisse prédire quels seraient éventuellement ceux prêts à voter pour Trump. Donc là, de la même façon, c'est le principe de la tech, hein, c'est de marchandiser les données de chacun d'entre nous sans les avoir payées.
Sylvie Laurent, elle était l'invitée d'Anne Cantner à la mi-journée.
L'Argentine confirme sa décision de sortir de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
C'est le ministre de la Santé argentin qui l'a annoncé après une réunion avec Robert Kennedy Jr., son homologue américain, en visite à Buenos Aires. Il doit être reçu aujourd'hui par Javier Milei. Cette visite et cette annonce illustrent parfaitement l'alignement, voire le mimétisme de Javier Milei, le président argentin, sur Donald Trump. Théo Conscience.
Le président argentin ne cache pas ses affinités et même son admiration pour son homologue américain. Sa politique étrangère se résume d'ailleurs en une phrase, alignement total et inconditionnel sur les États-Unis et Israël. Sur le plan de la santé, cela se traduit donc par la sortie de l'Argentine de l'Organisation mondiale de la santé, déjà annoncée par Javier Milei en février dans le siège de Donald Trump. Le gouvernement argentin estime, je cite, que les recettes de l'OMS ne fonctionnent pas, car elles ne sont pas basées sur la science mais sur des intérêts politiques. Alors qu'il reçoit Robert Kennedy Jr. aujourd'hui, le président argentin a également demandé à son gouvernement une révision des processus de fabrication, d'approbation et de supervision des vaccins, autre cheval de bataille du ministre de la Santé américain. Et l'alignement argentin sur les États-Unis de Trump va plus loin. Il y a deux semaines, Buenos Aires a annoncé un durcissement de sa politique migratoire, avec notamment des mesures sur les expulsions d'étrangers qui ne sont pas sans rappeler celles adoptées par Donald Trump.
Théo Conscience, dans le nord de l'Angleterre, à présent à Liverpool, 11 personnes toujours hospitalisées.
Mais hier en fin d'après-midi, une voiture a foncé dans une parade organisée par les fans du club de foot Liverpool FC qui fêtaient leur victoire en Premier League. Le conducteur a été arrêté. Selon la police, il conduisait sous l'emprise de la drogue. Quand le drame s'est produit, il suivait une ambulance qui se frayait un chemin dans la foule.
Également sur le continent, le Corporate Leaders Group Europe qui envoie une lettre ouverte au Conseil, à la Commission et au Parlement européen.
Oui, alors le Corporate Leaders Group Europe, c'est un réseau mondial d'entreprises engagées pour une transformation vers des économies compétitives, durables et inclusives. Et sa lettre, signée par 150 entreprises dont EDF, IKEA ou encore Unilever, appelle l'Union européenne à s'engager pour baisser de 90% ses émissions de carbone en 2040. 40% de baisse par rapport à 1990. Alors, certes, c'est déjà l'objectif affiché de la Commission européenne, mais il est encore loin d'être adopté par les 27, d'où cette petite pression. Juliette Pietraszewski.
Il faut une orientation claire de la part de l'Europe. Voilà en substance le message des signataires. Prioriser des réductions drastiques des émissions est essentiel pour l'intégrité environnementale, mais aussi pour stimuler l'innovation et la résilience de nos activités et de l'économie européenne. Déclaration de la directrice du développement durable et des affaires générales d'Unilever. Claire Berthier, elle aussi, est signataire, directrice générale de Trusteam Finance, une société de gestion française et entrepreneuriale.
Il y a à l'heure actuelle de très gros risques climatiques qui pèsent sur les entreprises. Il y a aussi un risque sur leurs actifs clients si elles ne prennent pas les bonnes décisions. On est persuadé qu'il y a de réelles opportunités à avoir une stratégie climat qui est forte.
Derrière la signature de la lettre, cette directrice générale pointe du doigt une volonté de détricotage de Bruxelles d'une partie du pacte vert.
Les dernières modifications de ce qu'on appelle la loi Omnibus nous a fait assez peur. Ces changements de la Commission européenne, elle dit qu'elles sont poussées par les entreprises et les investisseurs. Il nous a semblé important de faire entendre une autre fois, dire que nous avions besoin de cette ambition forte et que les discours portés par certaines organisations comme Business Europe ou le MEDEF n'étaient pas les seuls.
Et la publication de cette lettre ouverte intervient au moment où la médiatrice européenne ouvre une enquête sur comment Bruxelles a lancé son projet de simplification Omnibus.
En France, la mort de Jean Tiberi, ancien maire de Paris, il avait 90 ans.
Et l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué la mémoire de celui qui avait d'abord été maire du 5e arrondissement. Jean Tiberi, un temps proche de son prédécesseur à la mairie de Paris, Jacques Chirac, avait dirigé la capitale de 1995 à 2001. Sa fin de carrière politique avait été éclaboussée par les affaires. En 2013, il avait ainsi été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour avoir inscrit des faux électeurs sur les listes de sa mairie du 5e arrondissement.
Et puis vous qui êtes fan de séries, Christophe, on va évoquer The Agency à présent.
Oui, une série américaine qui est le remake du français Le Bureau des Légendes. Michael Fassbender y incarne un espion de la CIA dont la couverture vole en éclats quand ressurgit une liaison dangereuse. Suspense, Elisabeth Le Quéré.
Lie to everyone. Pretend to be someone you're not.
6 ans d'immersion en Afrique et un retour qui fait l'effet d'une bombe. À Londres, Brandon Colby, alias Martian, le Martien, croise celle qu'il ne devait jamais revoir, Samia, qui fut sa maîtresse, à Addis Abeba. C'est par cette rencontre explosive que démarre The Agency, production de prestige, avec George Clooney aux manettes et devant la caméra, Michael Fassbender, en agent secret, déchiré entre devoir et sentiment.
You're a nun.
Si l'intrigue reste fidèle à l'original français, le traitement, lui, prend résolument le virage hollywoodien. Le rythme est plus nerveux, les scènes d'action nombreuses et la tension dramatique constamment maintenue. Pour autant, la série ne sacrifie ni la complexité psychologique ni la contextualisation géopolitique. Quand le bureau traité de la Syrie ou de l'Iran, The Agency s'empare des tensions au Soudan et du conflit ukrainien. Déjà renouvelé pour une deuxième saison, The Agency parvient à trouver sa voie dans le concert des séries d'espionnage, un équilibre rare entre intelligence narrative et spectacle grand public.
The Agency avec Elisabeth Le Quéré.
Dans le grand journal du soir de Christophe Pagé. Merci Christophe. 20h15 ici à Paris.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Et dans les prochaines minutes, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce qu'un tribunal spécial sur l'Ukraine pourrait voir le jour? L'initiative est soutenue par plus de 40 États. Il s'agit de juger le crime d'agression. Ce serait une première depuis Nuremberg et Tokyo en 1946. On va en parler avec nos collègues suisses du journal Le Temps qui se penchent sur ce sujet. Et puis ce mardi, la Guadeloupe qui rend hommage aux milliers de victimes déportées d'Afrique à des fins de traite et d'esclavage. Le mois de mai, traditionnellement, c'est le mois de la mémoire sur ce sujet. En France, notre reportage à suivre. Mais pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Baptiste Leduc.
Bonsoir Romain Ozoui.
Allez, le tennis évidemment à la une. Ce soir, Roland Garros, Novak Djokovic a tranquillement réussi son entrée dans le tournoi.
Aucun problème pour le Serbe qui a disposé de l'Américain Mackenzie McDonald. 6-3, 6-3, 6-3, c'est net. Novak Djokovic, 38 ans, 6e mondial et plutôt outsider à Paris cette année, a rassuré. Une qui a manqué de se rassurer en revanche, c'est 11 Jabeur. Et pour nous en parler, notre envoyé spécial à Roland Garros, Babacar Diarra. Bonjour Babacar.
Bonjour Baptiste, effectivement une désillusion hein, pour 11 Jabeur en pleine traversée du désert qui a perdu ces dernières années en force mentale et face à la Polonaise Magdalena Fresh. Elle s'est battue pendant un premier set, disputé à coups de chaussée croisée et perdue au jeu décisif. Et puis derrière, la Tunisienne s'est complètement écroulée 6-0 dans la deuxième manche depuis sa finale de Wimbledon en 2023. Jabeur n'a atteint aucun dernier carré dans un majeur. Alors les yeux rougis, elle s'est confiée à Eric Mamrut sur cette période difficile.
Quand tu fais deux fois quart de finale ici, ton prochain goal, c'est de faire les demi-finales ou finales, tu vois, c'est pas de perdre en premier tour. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes de ce tournoi parce que j'étais pas prête, quoi, ni tennistiquement. Physiquement, c'était beaucoup mieux qu'il y a une semaine ou il y a une semaine et demie, mais voilà, j'ai pas une baguette magique. C'est une période très difficile aussi mentalement. Je vais continuer à bosser encore plus dur. Je vais essayer de trouver d'autres solutions.
Et maintenant, Babacar, place à la Night Session qui va être animée par un des chouchous du public français.
Oui, Gaël Monfils qui va très prochainement entrer sur le court. Que serait un Roland Garros sans une session de nuit avec Gaël Monfils qui va être opposé au Bolivien Hugo Adelien. Les organisateurs ont forcément coché ce mardi soir pour le premier tour du Français de 38 ans qui va peut-être proposer un spectacle égal à sa Night Session rocambolesque de l'an dernier face à Sébastien Baez où il s'était imposé en 5-7 et presque 4 heures. Encore une fois, la Monf n'arrive pas à son pic de forme. Il n'a pas dompté la terre battue cette année, mais le public français l'a transcendé plus d'une fois et ça devrait vibrer sur le Châtrier. En deux mots, ça vibre aussi juste à côté sur le court 7 avec le prodige brésilien João Fonseca face à ce polonais Hubert Hurkacz. Il mène 1-7 à 0 et puis 4-2 dans la deuxième manche.
Merci Babacar et patience donc si mon fils vous emmène jusqu'au bout de la nuit.
Voilà, merci beaucoup Babacar Diarra depuis Roland-Garros. Le football, Baptiste Leduc et la première liste de Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur du Brésil qui était très attendu. L'Italien fait déjà un choix fort.
Ah oui, l'ex-coach du Real Madrid a décidé de se passer de Neymar pour le rassemblement de juin. Il y a des revenants dans sa liste, Casemiro, Anthony, Richarlison, c'est très remanié. Mais donc sans l'enfant chéri du Brésil, Carlo Ancelotti s'est expliqué sur son choix d'écarter Neymar. L'entraîneur italien a sûr compté sur lui sur le long terme.
Le Brésil compte de nombreux joueurs talentueux et dans le cas spécifique de Neymar, nous comptons, l'équipe nationale et le Brésil, évidemment sur lui pour qu'il joue à son meilleur niveau. Mon objectif est que Neymar soit prêt pour la Coupe du Monde. Je lui ai parlé ce matin pour lui expliquer ça et il est tout à fait d'accord avec nous. L'idée est ici de profiter de la grande qualité des joueurs et de travailler pour que cette qualité soit regroupée autour d'un seul objectif, gagner la Coupe du Monde.
Deux matchs au programme pour le Brésil, le 6 juin en Équateur, le 11 contre le Paraguay.
Et puis un mot de cyclisme pour terminer.
Oui, le Giro, le Tour d'Italie qui nous a réservé une très très belle 16e étape, une arrivée au sommet où deux Italiens sont arrivés main dans la main, Christian Scaroni qui a remporté officiellement l'étape pour Astana devant son coéquipier Lorenzo Fortunato. Au classement général, ça bouge aussi un petit peu, le Mexicain Isaac Del Toro toujours maillot rose mais sous la menace de Richard Carapaz, l'Équatorien.
Merci Baptiste Leduc pour cette actualité sportive de ce mardi. Il est 21h, bientôt 20 minutes à Kiev. La guerre en Ukraine à présent est toujours pas de perspective de nouvelles discussions entre Moscou et Kiev après celles qui se sont déroulées en Turquie il y a 10 jours, et alors que le week-end dernier a été marqué par une intensification des frappes de la Russie. Bonsoir Stéphane Bussard.
Bonsoir.
Journaliste au quotidien suisse Le Temps, on va évoquer avec vous la question de la justice internationale, parce qu'évidemment cette question se pose depuis le début de la guerre, et dans ce dossier voilà un élément de poids, c'est la possibilité de création d'un tribunal spécial. Ce serait une première depuis Nuremberg et Tokyo en 1946. Au début du mois, 42 États ont approuvé un tel projet, qui aurait un rôle bien précis, puisqu'il s'agirait de juger le crime d'agression contre l'Ukraine. Ce sera ma première question, Stéphane Bussard. Comment on peut définir le crime d'agression?
Alors, le crime d'agression, c'est le crime des crimes, entre guillemets, c'est le crime suprême. C'est comme ça qu'il a été d'ailleurs défini à Nuremberg. Et aujourd'hui, on dirait que c'est un crime par lequel, justement, un État décide de déclencher une guerre ou de planifier une guerre. Et justement, si on poursuit un crime d'agression, c'est qu'on poursuit des dirigeants hein, qui ont pris la décision ou qui ont facilité la décision d'entrer en guerre.
Alors, la mise en place d'un tribunal spécial, ce serait assez inédit, je l'ai dit, une première depuis 1946. Qu'est-ce qui permet de penser que ce tribunal peut voir le jour?
Alors, je crois qu'il y a une vraie volonté, en tout cas au sein de pas mal d'États du Conseil de l'Europe, de vouloir aller de l'avant. C'est vrai que c'est une question délicate. Hein. En 2010, il a fallu déjà donner une définition, parce que la Cour pénale internationale, malheureusement, n'a pas les outils pour juger ce type de crime par rapport à l'Ukraine. Elle pourrait le faire par rapport à d'autres États partis au statut de Rome, hein, qui ont constitué la Cour pénale internationale, mais il ne peut pas le faire par rapport à la Russie parce qu'elle n'est pas État parti à la Cour pénale internationale. Et donc, voilà, là, je crois qu'il y a une vraie volonté. Maintenant, il faudra voir si les États, après leur décision de principe de livre, vont mettre les moyens financiers, parce que, voilà, il faut quand même financer cette organisation qui devrait s'installer normalement aux Pays-Bas, à la Haye. Mais effectivement, le chemin est encore, je dirais pas long, mais en tout cas, il est encore tortueux et difficile.
Oui, parce que 42 États qui approuvent la création d'un tribunal spécial, c'est effectivement une première étape importante. Mais quelles sont les prochaines étapes?
Alors, les prochaines étapes, la première étape, c'est premièrement, effectivement, que ces États décident de vouloir financer ce tribunal. L'autre étape, c'est aussi que les Pays-Bas, qui sont censés, d'après ce qu'on a appris de livres, qui sont censés accueillir ce nouveau tribunal spécial, voilà, établissent une loi de l'État hôte pour accueillir ce tribunal spécial et puis que cette loi soit approuvée par le Parlement néerlandais. Donc voilà, ça nécessite encore quelques démarches importantes.
On peut imaginer une date, une perspective sur la création de ce tribunal spécial?
Alors ça, c'est honnêtement, c'est très difficile à dire. J'imagine que ça va quand même prendre un peu de temps. Les choses à ce niveau-là sont toujours relativement lentes. Je vous donne un exemple. Il a fallu, voilà, on a donné une définition entre guillemets du crime d'agression à Kampala en Ouganda en 2010 lors d'une conférence de révision des statuts de Rome, et puis ce n'est qu'aujourd'hui que voilà, même aujourd'hui cet amendement n'est pas en vigueur parce que les États n'ont pas, il n'y a pas eu suffisamment d'États qui l'ont ratifié. Donc vous voyez, même la Cour pénale internationale n'est pas à même de juger justement des cas de crimes d'agression parce que l'amendement n'est pas en vigueur. Donc vous pouvez imaginer que pour le tribunal spécial pour le crime d'agression en Ukraine contre l'Ukraine, ça va aussi prendre passablement de temps.
Oui, c'est une procédure récente, très nouvelle, très évolutive. Vous avez évoqué évidemment la procédure de la Cour pénale internationale. Il y a notamment un mandat d'arrêt qui a été délivré à l'encontre du président russe Vladimir Poutine. Donc évidemment, cette procédure, elle se poursuit. Qui serait jugé, à côté de cette procédure justement, qui serait jugé dans le cadre de ce tribunal spécial?
Alors là, c'est assez ouvert. Il y a une certaine jurisprudence qui dit que ça devrait se limiter à ce qu'on appelle la troïka, c'est-à-dire le chef d'État, le chef de gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Donc là, on parle de la Russie. Maintenant, tout ça est ouvert et c'est effectivement les États qui vont mettre en œuvre ou qui vont créer ce tribunal, qui devront aussi se déterminer est-ce qu'on va l'élargir et jeter un filet beaucoup plus large pour, disons, aussi pouvoir s'en prendre à des hauts responsables militaires, à d'autres responsables qui ont financé, par exemple, la guerre russe en Ukraine. Tout ça est totalement ouvert. Le plus probable, c'est que ce soit relativement limité à la Troïka, mais on ne sait jamais. Peut-être que les États auront envie d'élargir le spectre et les potentiels accusés d'un tel tribunal.
Une première après Nuremberg, un tribunal spécial pour juger le crime d'agression contre l'Ukraine. Ça, c'est le titre de votre article publié dans Le Temps sur le site internet du journal. Merci beaucoup Stéphane Bussard.
Merci à vous.
En France, le mois de mai marque traditionnellement les commémorations de la traite et de l'esclavage. Ainsi, ce mardi, c'est la Guadeloupe qui rend hommage aux milliers de victimes déportées d'Afrique. Dans ce contexte, le Code noir revient dans l'actualité. Le Code noir, c'est ce texte juridique qui réglementait la vie des esclaves dans les colonies françaises, promulgué par Louis XIV en 1685. Il n'a jamais été abrogé. Mais récemment, des députés ont interpellé le Premier ministre français pour lui demander l'abolition de ce texte. C'est un reportage de Sylvie Coffy.
Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie qu'est le Code noir, au nom de la justice réparatrice.
Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Lors des questions hebdomadaires au gouvernement dans l'hémicycle, Laurent Panifous, président du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, interpelle le Premier ministre. Mais de quoi parlons-nous? Éric Ménard est historien.
Alors, le Code noir est un texte juridique qui a été demandé par l'administration de Colbert, qui à l'époque était ministre de la Marine. Louis XIV signe le texte qui concerne les colonies françaises d'Amérique. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. L'article le plus connu, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle le marronnage, c'est-à-dire la fuite hors de la plantation. Si un esclave quitte la plantation, la première fois, s'il est arrêté, il sera marqué au fer rouge et il aura une oreille coupée. La deuxième fois, il aura le jarret coupé, on le mutilera, et la troisième fois, ce sera la mort. Quatrième catégorie d'articles, ce sont ceux qui sont probablement les plus choquants dans le livre parce qu'ils sont d'une froideur excessive. Ce sont des juristes qui écrivent ces textes. Ça va être les articles qui vont définir le statut de l'esclave comme un bien meuble immeuble qui peut être vendu, qui peut être légué par héritage.
En ce mois de commémoration, plusieurs communes comme celle de Beaumont-sur-Oise, en région parisienne, inaugurent une stèle et plantent un arbre de vie symbole de liberté pour rendre hommage à ces milliers de femmes, d'enfants, d'hommes arrachés à leur terre natale et mis en captivité. Dans les discours qui s'enchaînent, la condition des esclaves est évoquée.
L'esclavage n'a pas été qu'un système d'exploitation. C'était une entreprise d'effacement. Effacer les noms, les langues, les identités.
Le Code noir, promulgué en France en 1685, leur et même la qualité d'homme.
Une histoire qui résonne encore au sein des associations mémorielles afro-antillaises.
C'était plus des châtiments en fait, châtiments corporels, pour réguler un peu, mais pour faire peur en fait.
Aujourd'hui, les questions d'abolir ce code noir, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que l'enlever, ça ne veut pas dire aussi faire comme si ça n'avait pas existé? Il faut qu'il y ait des traces en fait de ce qui existait pour qu'on ne l'oublie pas en fait, et que ça ne se reproduise pas.
Ils veulent le retirer ou l'effacer de l'histoire? C'est pas pareil. Parce qu'ils le retirent, mais symboliquement, il existe toujours. Okay. Mais s'il le retire pour le faire disparaître, comme dans le livre d'histoire quand on était à l'école, c'est pas bon.
Une histoire à transmettre aux générations futures, c'est l'une des missions de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Aïssata Seck, directrice de cette institution.
Une fois qu'on a abrogé ce code, quels sont les moyens supplémentaires que l'on met en place pour transmettre cette histoire? Que faisons-nous des inégalités en Outre-mer qui sont directement liées à l'histoire de l'esclavage?
Le Premier ministre s'est engagé à abolir le code noir en promettant un texte prochainement au Parlement.
Voilà, c'était Sylvie Coffi sur Radio France Internationale. Merci de nous écouter. Restez avec nous. La session d'info de la soirée, elle se poursuit pendant encore 1h30. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir de ce mardi.
Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
La CEDEAO célèbre ses 50 ans, un anniversaire sur fond de crise, depuis que trois de ses pays membres ont claqué la porte de l'organisation. Créée pour promouvoir l'intégration économique, sociale et politique en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO est-elle encore crédible ? Émission spéciale à Abidjan.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.